Notre texte biblique dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, alors toujours au chapitre 13, et ce sont les versets 31 à 35. Alors Jean, chapitre 13, versets 31 à 35. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Et je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, combien ces paroles sont belles, hein, et importantes. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter à une petite expression que j'ai pas soulignée la dernière fois. Mais le Seigneur Jésus a dit, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Maintenant, le Fils de l'homme. Et c'est très important, vous savez, de souligner le Fils de l'homme, et le souligner plus particulièrement à cet endroit-là. Parce que dans les évangiles, aussi bien Matthieu, Marc que Luc, eh bien, l'expression le Fils de l'homme se retrouve. Et beaucoup de chrétiens se disent, mais qu'est-ce qu'on doit dire, le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu? Hein? Alors, c'est très important, parce que la parole de Dieu ne dit pas les choses au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Si une expression est donnée là, c'est qu'elle a son importance là. Et si le Fils de Dieu dit le Fils de l'homme, eh bien, nous devons nous arrêter là au Fils de l'homme et savoir pourquoi il dit le Fils de l'homme, et plus particulièrement à cet endroit-là. Je vous rappelle la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Quand Satan est venu le tromper, ou plutôt le séduire, il a essayé de le tromper, mais il n'a pas trompé. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu. Et le fils de l'homme a répondu, ce que vous savez. Il l'a tenté sur le fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu s'est dépouillé lui-même. Il est descendu sur la terre. Il a pris notre humanité. Il s'est chargé de notre humanité, dans tout ce que représente un être humain, dans ses limites, dans ses conséquences. Il a dû être un être humain à part entière. Il a commencé au berceau et jusqu'à la mort de la croix. Tout cela, c'est une vie humaine. Et Satan a voulu l'amener sur le terrain du Fils de Dieu. Mais il s'est dépouillé, non pas de sa divinité, mais de ses attributs divins. Et il est descendu comme un simple homme, tout en étant quand même le Fils de Dieu. Là, nous sommes en plein mystère, hein. Nous ne pouvons pas expliquer comment il est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Mais il est à souligner quand même qu'il est pleinement Dieu et qu'il est pleinement homme. Il n'y a rien de l'humanité qui lui a échappé. Il a été totalement un être humain comme nous. Il a eu faim, il a eu soif, et je pense qu'il a dû avoir froid. Et qu'il a dû avoir tout ce que nous subissons, nous, en tant qu'êtres humains. Et c'est donc très important de rappeler qu'il a été le Fils de l'homme. Et là, dans ce passage, eh bien, le Seigneur Jésus dit, le Fils de l'homme. Et il n'est pas venu là, parce que c'est ici que commence le sacrifice de la croix. C'est ce petit mot, hein. Il dit, maintenant. Hein, c'est parce que Judas, il lui a donné, on pourrait dire, le feu vert. Judas avait déjà pris l'initiative de trahir et de vendre le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus lui dit, fais-le. Vas-y. Donc, il lui donne le feu vert, on pourrait dire, hein, en bon français. Voilà. Donc, comment dire, c'est là qu'il commence son sacrifice, en disant, fais-le. Vas-y. Livre-moi. Je vais donner ma vie. Et c'est là le commencement, le vrai commencement du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est quand il dit à Judas, vas-y, tu veux me livrer, livre-moi, je suis prêt. Et c'est là qu'il est le Fils de l'homme. Parce que quand Paul parlait aux Romains, il leur dit, le premier Adam a péché. Le second Adam est un esprit vivifiant. Il y a un premier Adam et il y a un second Adam. Le premier Adam, vous le connaissez, nous sommes tous descendants de ce premier Adam. C'est le premier Adam au jardin d'Éden a failli. Il est tombé. Il a écouté Satan. Il a été tenté, séduit, trompé. Et il a pris le fruit. Il a été déchu. Il a été jeté hors du jardin. Il n'a plus pu avoir un contact, une communion avec Dieu réelle. Il y avait toujours quelque chose, toujours le péché, toujours des obstacles, toujours la nature humaine, la mauvaise nature. Il y a toujours ce combat entre les bonnes choses et puis les mauvaises choses. Vous trouvez des gens très sympathiques, très bons, très généreux, mais inconvertis et ennemis de Dieu. Et vous dites, mais c'est dommage qu'un tel homme ne... C'est comme ça. C'est le descendant du premier Adam. Et il y a de franches canailles, des gens qui séduisent, qui trompent, qui volent, qui tuent, qui font des multitudes de choses. On se dit quand même, il faut vraiment être déchu pour faire toutes ces choses. Eh bien, aussi bien celui qui se comporte bien que celui qui se comporte mal sont descendants d'Adam. Et il y a toujours la part du péché, la part de la désobéissance, l'éloignement de Dieu et le cœur corrompu qui sont là. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme le second Adam. Et c'est pour cela qu'il est le fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il a vécu pleinement une vie d'homme, totalement, complètement. Et il a été tenté comme nous, c'est l'Épître aux Hébreux, hein. Dans deux passages, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté comme nous en toute chose sans commettre de péché. Donc il a vécu une vie d'homme sans péché, mais pas sans tentation, pas sans épreuve, pas sans problème, pas sans difficulté, pas sans chagrin. Mais dans tout ce qu'il a vécu, il a triomphé. Et il est le second Adam. Satan a essayé de le tenter exactement comme le premier Adam. Mais il a triomphé. Et c'est là que notre espérance, c'est que si lui, ayant vécu une vie d'homme, totalement homme, eh bien il a su surmonter tout cela, eh bien il nous donnera aussi la force de surmonter tout et de vivre pour lui. Ça, c'est une grande espérance, c'est un grand, comment dire, sujet de joie que de pouvoir dire, eh bien nous ne sommes pas oubliés, nous sommes connus de quelqu'un qui nous connaît. Vous savez, il y avait, je connais l'histoire, mais je ne sais pas vous la situer. C'est quelqu'un qui l'a cité, je ne sais pas d'où il l'a cité. Mais en tout cas, c'était un jour un homme qui allait au temple d'Apollon. Il apportait une bestiole, voilà, une petite bête pour le sacrifice. Il y avait Socrate qui se trouvait là, et il l'a interrogé à son habitude. Il lui a dit, tu es sûr qu'elle est assez grosse? Eh ben, il a dit, j'espère quand même. Il a dit quand même, tu vas offrir ça à une divinité. Il faut quand même que tu sois un peu plus sûr de ce que tu fais. Parce que si elle n'est pas assez grosse et que tu peux faire plus, ben, au lieu d'attirer la bénédiction que tu attends, tu risques d'attirer le châtiment. Et puis, si tu n'es pas, tu apportes un animal et tu l'as offensé gravement, tu te rappelles à son souvenir, peut-être qu'il t'a oublié. Et tu te rappelles à son souvenir, ben, tu devrais faire attention à ce que tu fais, parce que quand même, il y a des choses qui méritent un peu plus de réflexion. Alors, il a dit, mais alors comment on fait? Comment on fait? Comment je peux savoir? Et alors Socrate, il lui a dit, eh bien, il suffirait qu'il y ait quelqu'un qui soit à la fois divinité et à la fois homme, et qui nous comprenne, et qui sache exactement ce qu'il faut faire. Parce que nous, humains, nous ne savons pas. Alors, je ne peux pas vous dire plus sur cette petite histoire, jusqu'à quel point elle est vraie, jusqu'à quel point Socrate l'a dit. Après tout, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dire à Socrate, hein. Mais l'histoire me paraît bonne parce que c'est cette interrogation de l'homme. C'est comment Dieu peut-il me comprendre? Lui qui est Dieu, lui qui est au-dessus de toute chose, lui qui ne connaît pas les problèmes de la vie. On peut lui dire, mais c'est bien beau, tu me dis d'être saint. D'accord, mais toi tu es saint par nature, mais moi je suis un descendant d'Adam. J'y arriverai pas, tu le sais bien. Est-ce que tu le sais seulement? Est-ce que tu l'imagines seulement? Puisque tu es Dieu, moi je suis un homme. Et c'est là que la grande interrogation, et c'est là que la réponse se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui est le Fils de l'homme. Mais il est le Fils de Dieu aussi. C'est car Dieu a tant aimé le monde, hein. Vous avez, je vais vous le dire d'une autre manière, car le Père, parce qu'il est parlé, il est dit le Fils, hein, son Fils unique, donc il est le Père. Car le Père a tant aimé l'humanité, il nous a tant aimé nous, qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Je peux vous dire, le jour où vous comprenez cela, vous tombez à genoux. Parce que le Fils de l'homme est venu sur la terre. Quelqu'un qui nous comprend. Quelqu'un qui a vécu une vie d'homme. Sans péché, bien sûr. Sans désobéissance. Mais il a connu les chagrins. Il a connu le deuil. Parce qu'à un moment, on trouve Joseph, puis après, il n'est plus là, hein. Donc il y a eu le deuil dans sa famille. Il a dû. Son père nourricier n'était pas un étranger pour lui. Et je pense ne pas trahir le Seigneur Jésus-Christ en disant que le Seigneur Jésus-Christ aimait profondément son père nourricier, Joseph. Et quand il est mort, eh bien, il a dû en souffrir beaucoup. Et je pense que c'est à la mesure de la souffrance quand on lui a appris que Lazare était mort. Lazare est mort. C'est ton ami. Il est mort. Et quoique sachant qu'il allait le ressusciter, il a pleuré. Il a eu du chagrin. C'est la mort n'est pas une petite chose. Même s'il sait qu'il va le ressusciter, il en pleure. Parce que la mort est un drame terrible, terrible. C'est nous, nous avons beaucoup de, comment dire, de capacité à rebondir, comme on dit. Mais on porte le deuil facilement, comme on dit. Mais le Seigneur Jésus voyait toute l'ampleur qu'était la mort. Et en tant que fils de l'homme, il savait ce qu'était la mort et ce qu'était le deuil, ce qu'était la souffrance du deuil. Et il a porté cela aussi sur lui. Et il connaît nos défaillances. Il connaît comment dire, nos tentations et nos épreuves et toutes ces choses. Parce que il est le fils de l'homme. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, vous savez. C'est le maintenant le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme est aussi autre chose que simplement le second Adam. Il est le second Adam. Mais en tant que Fils de l'homme, il est autre chose. Il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Parce que ce n'est pas en tant que Dieu qu'il est souverain sacrificateur de notre foi. C'est en tant que Fils de l'homme. Il est non pas de la lignée des souverains sacrificateurs descendants d'Adam. C'est, je vous cite l'Épître aux Hébreux, qui dit très clairement dans un chapitre tout entier qu'il est fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais Melchisédek, qui était Melchisédek? Un homme. C'est même s'il est rendu semblable au Fils de Dieu, il n'était pas quelqu'un d'autre qu'un être humain. Il y a des conformités avec le Seigneur Jésus, c'est vrai, mais il n'est qu'un être humain. Et donc, sa souveraine sacrificature, ce nouveau souverain sacrificateur, est fils de l'homme, parce que il est selon l'ordre de Melchisédek, qui était un homme. C'est quelque chose, vous savez, de pouvoir savoir que le souverain sacrificateur que nous invoquons et qui est notre souverain sacrificateur de la foi que nous professons, eh bien, c'est compatir à notre faiblesse. Le souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, il était sujet aux faiblesses et il était compatissant envers les autres parce qu'il était sujet à la faiblesse et il devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Mais le Seigneur Jésus n'est pas. Il est selon l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire d'une lignée différente d'Aaron qui a commencé par le péché. Parce que la lignée d'Aaron a commencé par le péché. Si vous lisez l'Exode, vous verrez le veau d'or, vous verrez les fils d'Aaron. Il y a eu des problèmes. Et même dans la descendance, tout n'a pas été pur avec Élie et puis d'autres souverains sacrificateurs qui se sont mal comportés, et même les souverains sacrificateurs du temps de Jésus qui étaient indignes. Il y avait deux, hein, Anne et Caïphe. Alors, les souverains sacrificateurs, vous noterez dans l'évangile de Jean, il est parlé les souverains sacrificateurs, normalement il n'y en a qu'un. Et donc ils avaient déjà rompu la souveraine sacrificature parce qu'ils étaient deux en compétition, le beau-père et le gendre. Donc il y avait un problème. Et donc le Seigneur Jésus, eh bien, il est venu comme second Adam, comme souverain sacrificateur. Il est venu pour offrir un sacrifice. Et le sacrifice, ce n'est pas un sacrifice animal, c'est le sacrifice de sa propre vie. Et c'est quand Judas a dit, comment dire, il a pris le morceau et le Seigneur Jésus lui a dit, tu peux, ce que tu as à faire, fais-le. Eh bien, c'est là qu'il a commencé, en tant que souverain sacrificateur, à offrir le sacrifice de sa propre vie. Parce qu'il y a un commencement et un déroulement au fur et à mesure de toutes les étapes que vous trouvez dans les évangiles, le passage devant Pilate, devant le Sanhédrin, devant les Hérodes, etc., les crachats, les vêtements de pourpre, le roseau dans sa main, la flagellation, toutes ces choses, eh bien, c'est le sacrifice qui commence. Et la croix, que le sacrifice final, c'est la fin. C'est là qu'il donne sa vie, qui est finalement. Mais le sacrifice commence avec ces mots où il dit, vas-y, fais-le. Livre-moi. C'est ton heure. Fais-le. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir comment notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous, pour donner sa vie. Le sacrifice que nous du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Il y a deux sacrifices pour le péché. Il y a le sacrifice de culpabilité et il y a le sacrifice d'expiation. Le sacrifice de culpabilité, c'était quand quelqu'un avait commis une action ou que le peuple avait fait quelque chose, une désobéissance à la loi, mais ça a été passé inaperçu. Et il y avait, comment dire, un sacrifice prévu pour cette situation-là, où le souverain sacrificateur ou un sacrificateur faisait quelque chose qui était dans le déroulement de la cérémonie. Il y avait une transgression, il y avait quelque chose, un oubli. Voilà, ils avaient oublié une action parce que chaque action était symbolique et avait comment dire, était parlante et il fallait que tout se déroule selon la prescription que Dieu avait donnée à Moïse. S'il manquait quelque chose, eh bien, c'était un manquement grave et le peuple n'était pas lavé de ses péchés. Il y avait quelque chose qui n'avait pas été fait comme il le fallait. Alors, il fallait offrir un sacrifice. C'était un sacrifice de culpabilité. Voilà, on est coupable. Voilà. Mais après, il y a le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation, c'est la transgression de la loi, carrément. Mais bon, après, vous savez, le sacrifice d'expiation ne couvrait pas tout, hein. Si vous lisez bien le Lévitique, vous verrez que le sacrifice d'expiation ne couvrait pas les péchés volontaires. C'était une transgression involontaire. Quelqu'un avait mal agi, voilà. Mais après, hein, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Il est difficile de savoir et voilà. Mais le sacrifice d'expiation est bien décrit dans la fête des expiations. Parce que à la fête des expiations, il y avait le sacrifice d'expiation. Et c'est dans cette fête que l'on trouve, quoique le sacrifice de Jésus-Christ, ce soit la Pâque. Mais le sacrifice de la fête des expiations nous parle de l'entrée de Jésus dans le ciel, etc. Alors, on va lire le texte. C'est Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Donc vous avez cette question le propitiatoire, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez une bonne représentation du tabernacle, il y avait un chemin, il y avait l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes, il y avait la mer d'airain, et puis on entrait dans le lieu saint, il y avait d'un côté chandelier, de l'autre côté la table des pains de proposition, devant le voile, il y avait l'autel d'or pour les parfums, et à l'intérieur du second voile, il y avait l'arche de l'Alliance, et sur l'arche, il y avait une plaque en or. Et il y avait deux chérubins qui étaient aussi soudés sur cette plaque. Et cette plaque en or s'appelait le propitiatoire. Et en fait, c'est le trône de Dieu. C'est l'endroit où Dieu règne. Alors tout cela est en image. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir, il y a une mer d'airain, il y a des âmes qui sont sous l'autel, parce que tout est représenté, on pourrait dire, presque en 3D dans le vide. Et il y a l'autel, et les âmes qui reviennent de la grande tribulation sont sous l'autel, parce que tout ça, c'est dans le ciel, il n'y a pas de surface où tout repose. Donc on peut dire c'est en 3D dans un voilà dans le vide ou dans hein, c'est dans le ciel. Et puis il y a la mer d'airain, une mer de cristal. C'est pas d'airain, là c'est la mer de cristal. Et vous entrez exactement la même chose. Vous avez l'ange qui prend l'encensoir d'or sur l'autel. Et c'est l'autel des parfums qui est devant la présence de Dieu. Donc tout ça, quand vous lisez l'Apocalypse, vous le lisez aussi avec cette représentation. Bon, j'élargis un petit peu mon étude ce matin, ce soir, mais je vous dis, c'est quand même, tout ça, c'est bien précieux parce que on a besoin de se représenter ces choses. Le tabernacle, c'était une image des choses qui sont dans le ciel. Donc les images étaient saintes. C'est l'arche de l'alliance et le propitiatoire étaient particulièrement saints, parce que c'était le trône de Dieu. Mais c'est le trône à la fois de sa justice et de sa miséricorde. Et il fallait que le souverain sacrificateur entre une fois par an. Alors c'était la fête des expiations, cette fameuse chapitre 16 que nous lisons maintenant. Il entrait dans la présence de Dieu. Une fois par an, avec du sang. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait quand il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Il est entré dans le ciel même, non pas dans le tabernacle fait de main d'homme, hein, c'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux. Il n'est pas entré dans un tabernacle fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même. Et il a présenté son sang comme sacrifice d'expiation pour nos péchés. Alors notre sacrifice, le sacrifice était totalement accompli à la croix et il est allé le porter dans la présence du Père et le Père a accueilli le Fils comme le souverain sacrificateur de la foi nouvelle, comment dire, nouvelle direction, nouvelle révélation. C'est lui qui est le souverain sacrificateur qui apporte le sacrifice qui nous purifie de tout péché. C'est pour cela que quand il est question, Moïse dit ici, doit faire attention quand il rentre dans la présence de Dieu. Parce que ce n'était. Moïse y rentrait constamment dans la présence de Dieu. Hein. C'est, vous le trouvez dans le stand d'assignation et dans le tabernacle, il entrait constamment et même Josué vivait dans le sein des saints. Si vous lisez bien, vous verrez, c'était particulièrement intéressant. Et puis, mais Aaron, étant souverain sacrificateur, à cause de ce qu'il représentait, ne pouvait entrer qu'une fois par an. Une fois par an. Et Dieu lui dit, tes fils sont morts d'être entrés n'importe comment dans ma présence avec du feu étranger. Toi, tu rentreras une fois par an avec le sang de l'expiation. Et c'est. Donc c'est pour cela, il a dit, parle à ton frère afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire et dedans du voile. Devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. C'est, je suis là. C'est quelque chose, vous savez, de très solennel. On ne s'approche pas de n'importe qui. Je ne sais pas si vous imaginez et vous posez la question, parce que parfois, vous savez, il faut s'arrêter un petit peu et se dire, mais qui j'adore? Le vrai Dieu, nous sommes d'accord. Mais ce vrai Dieu, il est dit que c'est un feu dévorant. On doit s'approcher avec piété et avec crainte. Et ce n'est pas dit aux Juifs de l'Ancien Testament, c'est dit à nous, chrétiens. On s'approche avec respect, avec la piété, avec le désir de lui plaire, le désir de faire pleinement sa volonté, de marcher conformément à sa parole. La piété, c'est beaucoup plus que simplement d'être pieux ou de faire des actes de piété. La piété est dans le cœur et on s'approche de Dieu. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus, en tant que Fils de l'homme, est entré dans la présence même de Dieu et nous a ouvert la route nouvelle de la présence de Dieu, si bien que nous n'avons pas besoin, comme le peuple d'Israël, d'apporter un sacrifice qui passe par l'autel, Puis après, il y a la mère des reins. Et puis après, il y a ceci, après cela. Et c'est le souverain sacrificateur qui rentrait tout seul. Le juif ou l'israélite croyant restait devant l'autel. Il n'allait pas plus loin. Parce que le chemin vers la présence de Dieu lui était fermé. Et même pour Aaron, c'était fermé, sauf une fois par an. Mais quand Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, en tant que fils de l'homme, il nous a ouvert le ciel pour toujours. Et c'est pour cela qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Qu'est-ce ce trône de la grâce? Mais c'est le propitiatoire. C'est l'endroit le plus saint en Israël. C'est l'endroit où il y a la présence même de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous puissions nous approcher de Dieu et non seulement nous approcher de lui et lui dire, Mon Père, viens à mon secours. Je suis en défaite. Je suis en défaillance. J'ai plus compris. Je ne comprends plus. Je ne sais pas. J'ai perdu la route. Combien de fois nous pouvons nous approcher de Dieu en lui disant, Seigneur, je ne sais plus. J'ai besoin que tu m'éclaires, que tu m'ouvres les yeux. J'ai besoin que tu me consoles parce que j'ai du chagrin, parce que je ne comprends pas. Je voudrais avancer avec toi. Je n'y arrive pas. Viens à mon secours. Prends ma main. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous approcher si facilement? C'est parce que le Fils de l'homme est venu sur la terre pour nous, pour nos péchés, pour effacer nos péchés, pour que tout cela soit purifié. Et c'est. Quand Paul parle à Timothée, il dit, et c'est une référence à Moïse, il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, pas Dieu, Jésus-Christ, homme. Il est Dieu, bien sûr, mais Jésus-Christ, homme, parce qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, et il plaide en tant que souverain sacrificateur notre cause avec son sang. Parce qu'il est le souverain sacrificateur, il est la victime qui nous sauve, qui nous rachète, qui nous lave de nos péchés. Et c'est avec assurance que nous pouvons nous approcher. Nous avons un médiateur, quelqu'un qui sert d'arbitre, qui vient à notre aide, qui plaide à notre faiblesse et qui dit, mais il est faible, mais j'ai donné ma vie pour lui. Mon sang a coulé pour que ses péchés soient effacés. Vous savez, c'est un grand privilège. Et je vous demande parfois, je le dis de temps en temps, hein, mais il faut s'arrêter de temps en temps. Et il faut réfléchir et se dire, mais je suis sauvé de qui? De quoi? Pour qui? Et pourquoi? Et comment je dois marcher? Comment est-ce que je dois vivre? Comment est-ce que je dois m'en comporter? Nous devons prendre bien en considération toutes ces choses. Parce qu'il y a un langage chrétien. J'étais scandalisé parfois même de certains prédicateurs qui prêchaient. Moi, je me rappelle de prédicateurs qui prêchaient avec arrogance et qui disaient, mais il faut prier Dieu. Et moi, je me rappelle d'un, il s'est énervé, il a dit, que diable! Oh là là, ce que diable dans une prédication. C'était quelque chose, vous savez. C'était un scandale. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut avoir de la véhémence, on peut s'enthousiasmer, mais il faut faire attention à ce que l'on dit. On ne dit pas n'importe quoi. Et surtout qu'il était en train de dire qu'il imposait à Dieu ce qu'il devait faire. Nous avons autorité sur Dieu. Nous devons prendre pouvoir sur Dieu. Ces prédications, ce sont des blasphèmes, carrément. On ne prend pas pouvoir sur Dieu. C'est Dieu qui a pouvoir sur nous. Nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce, par la miséricorde de Dieu. Et quand je lis l'Épître aux Hébreux, peu de pasteurs prêchent sur l'Épître aux Hébreux, très 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 peu, parce que l'Épître aux Hébreux, c'est un buisson d'épines. Je peux vous dire qu'il est difficile, parce qu'il y a des passages difficiles, particulièrement difficiles d'interprétation, et puis, Dieu est un feu dévorant. Si Dieu n'a pas épargné, c'est le peuple d'Israël, il ne nous épargnera pas non plus. C'est une terre qui est cultivée et qui ne produit que des épines. On finit par y mettre le feu. Ce sont des paroles, on préfère, tout va bien, Dieu répondra à vos prières. Faites un peu n'importe quoi, de toute façon, alors on dit, on a un avocat auprès du ciel, de Dieu, dans le ciel, et il plaide notre cause. Ça veut dire, bon, ben, ne vous inquiétez pas trop, hein, vous êtes des humains, vous êtes bien faibles, vous êtes tombés encore une fois de plus. Oh là 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 là, le pauvre, on vous tape sur l'épaule et on vous dit excusez, hein, là, vraiment. Eh ben, tu demandes pardon. Tout cela est vrai, mais attention à la manière dont on le dit et à la manière dont on le fait. C'est Dieu est un juste juge. On ne prend pas Dieu, excusez-moi de dire la chose comme ça, pour un imbécile. C'est Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est le grand Dieu, c'est le Dieu éternel. Je voudrais vous dire, quand nous parlons de Dieu, quand on fait de la théologie, on apprend les attributs de Dieu. Voilà. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est patient, etc. Il y en a une dizaine. Et donc, il y a des définitions autour de ces attributs. On appelle cela les attributs de Dieu. Mais le grand attribut de Dieu qui domine tous, c'est sa sainteté. Parce que quand on dit Dieu est amour, mais dans sa sainteté. Dieu est juste dans sa sainteté. Quand la première rencontre que un être humain fait, nous retournons à l'Épître aux Hébreux, après la mort vient le jugement. C'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. C'est-à-dire qu'on se présente devant Dieu. La première rencontre avec Dieu, c'est sa sainteté. C'est sa sainteté. Quand il est dit Dieu est lumière, sa lumière, c'est la lumière de sa sainteté. C'est la rencontre avec la sainteté de Dieu est quelque chose de terrible. Je ne sais pas si, voilà, nous avons plusieurs sortes de lumières, mais souvent c'est de l'incandescence, nos lumières. Donc, même la lumière d'une bougie, c'est des gaz qui sont à haute température et qui deviennent lumineux. Donc, la lumière de Dieu n'a rien de comparable. C'est quand il est dit que Dieu est un feu dévorant, c'est une lumière immense et qui produit du feu. C'est à peu près comme la lave en fusion. Quand la matière est en fusion, elle est élevée à des températures extraordinaires, 3500 ou 4000 degrés, quelque chose d'énorme, hein. C'est quand la lave sort d'un volcan, elle est à de très hautes températures, de plusieurs milliers de degrés. Elle produit de la lumière. Mais elle produit de la chaleur aussi, une chaleur insoutenable. Quand les bourreaux des amis de Daniel ont jeté les amis de Daniel dans la fournaise, ils ont été tués par la flamme. Donc quand il est question de la sainteté de Dieu et qu'il est un feu dévorant, c'est une lumière immense, c'est une lumière insoutenable, c'est une lumière que les chérubins se cachent la face. Ils sont devant la sainteté de Dieu. Et nous, petits humains, nous parlons légèrement de Dieu. Et nous disons des tas de choses sur Dieu mais je me dis, mais est-ce que nous prenons vraiment conscience de qui il est? Je vais vous dire une autre chose. C'est que quand les pécheurs entrent dans la présence de Dieu et qu'ils rencontrent sa sainteté, la lumière de Dieu, de sa sainteté est si intense et la chaleur de sa présence est si grande, qu'il préfère aller en enfer, parce que la chaleur de l'enfer est beaucoup plus basse que la chaleur de la présence de Dieu. Parce que c'est dit que Dieu est un feu dévorant. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas peu de choses de le dire. Et je vous demande, arrêtez-vous de temps en temps et pensez à la grandeur de Dieu, à sa toute-puissance. Oh, bien sûr, on parle de la grâce et de l'amour. Et on se réfugie derrière une partie de ce qu'est Dieu. Mais pensez à la présence de Dieu dans sa sainteté. Nul homme ne peut tenir dans la présence de Dieu si ce n'est recouvert du sang de Christ. C'est parce que Christ a payé à la croix que nous pouvons nous approcher de la présence de Dieu. C'est une présence insoutenable. Même les anges se couvrent la face quand ils s'approchent de Dieu. Et nous, petits humains, pécheurs, rachetés par grâce, nous parlons légèrement de choses qui devraient amener notre adoration On devrait se prosterner en les parlant, en en parlant. On devrait pleurer d'amour de notre Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils, qui est le Fils de l'homme. Et c'est parce qu'il est Fils de l'homme que nous pouvons nous approcher du Père et nous pouvons l'invoquer en toute liberté. Oh, bien sûr, l'Épître aux Hébreux, qui est une épître si terrible, elle nous dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. » Alors, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais il s'agit d'avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu. Mettre Dieu à sa juste place, non seulement dans l'univers, mais dans notre propre vie, et dans notre comportement, et dans notre manière de faire, et dans nos projets, et dans nos relations, dans nos amitiés, et dans notre vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons. Où est Dieu? Qui est Dieu pour nous? Et c'est très important, vous savez, de s'arrêter et de prendre ce temps. Et je peux vous dire, vous ne perdrez pas votre temps en vous arrêtant et en pensant à Dieu et en lui disant « Seigneur, parle-moi, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, dis-moi les choses que j'ai besoin d'entendre. J'ai tant besoin d'entendre, de t'entendre me parler, toi-même de m'expliquer les Écritures, toi-même de me montrer le chemin dans lequel je dois marcher. Rends mon cœur intelligent, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ton amour, fais-moi connaître ton nom, fais-moi connaître ta vie, comment tu es, qui tu es. » Vous savez, c'est très important, et notre Dieu veut nous se révéler. Il s'est révélé dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, et il veut encore se révéler. Et c'est quelque chose qui est merveilleux. Ne se laissez pas passer le temps, vous savez, de votre vie terrestre. On peut multiplier les activités de notre vie terrestre, on peut faire des multitudes de choses. Et un jour, eh bien, nous allons être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et je peux dire une chose, certains chrétiens vont être déracinés de la terre. Ils ne vont pas y entrer comme une gerbe qui entre dans le grenier. Hein. Ils ne vont pas rentrer avec joie dans le ciel. Ils vont être arrachés à la terre. Parce qu'ils ont tellement pris de racines, tellement d'intérêts sur la terre, alors que nous sommes faits pour le ciel. Et déjà, sur cette terre, préparons-nous à tout cela. Je me rappelle, c'était un pasteur, il parlait de sa femme qui était décédée dans l'année. Il parlait à ses enfants, donc il avait écrit à ses enfants, il dit « Votre mère était une sainte femme, elle vivait comme on doit mourir. » C'est-à-dire que toute sa vie, eh bien, c'était une vie dans la présence de Dieu. Et quand le jour où elle est partie, eh bien, ce n'est pas une surprise. Elle s'est pas dit « Tiens, mais oh là là, j'ai encore des choses à faire moi. Mais non, Dieu, pas maintenant. Et tu te trompes, j'aimerais encore vivre sur la terre. » Poser un peu plus de racines, avoir un peu plus de bien, avoir un peu plus de choses qui font du bruit dans mes mains. Et Dieu va dire, c'est trop tard maintenant. Tu rentres à la maison avec ce que tu as, c'est-à-dire rien, rien. Parce que toutes nos racines, toutes ces choses qui prennent tant de place maintenant, on va toutes les laisser. Tandis que cet amour de Dieu, cet amour, cette joie de sa présence, ce désir de lui plaire, de vivre pour lui, de lui consacrer notre vie, de donner le meilleur de ce que nous avons, ben tout cela nous aura précédé au ciel. C'est notre richesse dans le ciel. Tandis que ce que nous laissons avec ces choses sur lesquelles nous allons pleurer, eh ben, elles vont être notre honte dans la présence de Dieu. Il a dit, mais comment? Tu t'es intéressé qu'à ces choses-là? Toi, que j'ai appelé mon fils, ma fille, tu t'es intéressé seulement à ce qui brille, à ce qui fait du bruit, à ces choses qui passent, qui disparaissent. Elles ont tellement pris de place pour toi. Vous savez, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Et moi, c'est cette réflexion sur le Fils de l'homme qui m'amène à toutes ces pensées. Et je me dis, le Fils de l'homme m'a ouvert le ciel, m'a ouvert une perspective tellement immense, tellement grande, tellement joyeuse, tel que jamais personne n'aurait pu imaginer quelque chose de plus grand. Certains hommes ont osé dire il y a une paternité entre l'homme et Dieu. Ésaïe l'a dit, mais même il y a des païens qui l'ont dit. Et Épictète l'a dit, Il disait, c'était un grec, bon ben, il était du temps de Paul, hein, il a vécu dans la même ville que Paul. Donc il a probablement entendu Paul prêcher, c'est plus que certain, parce qu'il n'a jamais quitté son village, Nicopolis. Donc vous trouvez dans la deuxième épître à Timothée, Paul est passé à Nicopolis et c'était la ville d'Épictète. Mais il dit, nous avons une paternité avec la divinité. Et il ne parle pas des dieux, hein. Il dit, nous avons une paternité, une filiation. Soyons dignes de cette paternité, voilà. Mais c'était des petites pensées. On osait penser, mais Dieu nous appelle ses fils et ses filles. Et donc c'est pour cela doit y avoir une séparation d'un certain état d'esprit, une certaine manière de faire, envers certaines choses qui prennent la place dans notre vie, parce que nous ne sommes pas destinés à vivre sur cette terre, au milieu de toutes ces choses de ce monde. Nous sommes destinés à être dans le ciel, dans la présence de Dieu, nous réjouir pour l'éternité dans sa présence. Et ça, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le Fils de Dieu, en tant que souverain sacrificateur, qui nous a ouvert le ciel.